142, je pense qu'on peut appeler ça des retrouvailles. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. Danny Morissette, notre ex-enquêteur à la Sûreté du Québec au crime majeur, qui est en studio avec nous autres. T'es en train de se parler d'histoire de police. Salut, Danny!
Hey, salut, vous deux, ça clique. Je veux dire, ça file.
Touloum!
Ça va super bien.
Je sais facile.
Pas, on s'est-tu reparlé depuis que t'as trouvé des trucs sur mon grand-père?
On s'est reparlé une fois.
On s'est reparlé en ondes, je sais pas. En tout cas, bref, je vais le refaire. Un gros merci parce que j'ai redistribué la fiche de policier de mon grand-père à toute ma famille, mes cousins qui n'avaient jamais vu de preuves, tu sais, comme quoi notre grand-père était bel et bien une police parce que moi, je ne l'avais pas vu en uniforme totalement. Tu sais, moi, je me souviens qu'il était tout le temps sapé comme un prince, toute la belle coiffure par en arrière, chemise, cravate et tout ça. Mais je me souvenais pas, parce qu'on était jeunes à l'époque, je me souvenais pas de mon grand-père habillé en policier.
Ben écoute, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Puis sincèrement, je t'avais dit que ça allait être facile, mais ça n'a vraiment pas été facile parce que...
Faut-tu retourner dans les archives?
Ben, j'ai fait appel avec la Sûreté du Québec, avec notre syndicat, avec, à un moment donné, à Nicolette.
Ouais.
Puis à toutes les fois, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, j'ai reçu ma badge de retraité et là, je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Donc, j'ai appelé l'Association des retraités, puis c'est eux qui ont fait
la
fameuse notice, là. Puis ils en ont fait plus que moins, je trouve.
Mais y a-t-il une genre de ligue du vieux poil d'un policier? Parce que, tu sais, il y avait un commentaire sur mon grand-père. Ah, je l'ai connu, il était tout le temps bien peigné, il était très fier d'être policier, tout ça. C'est-tu des anciens qui partagent constamment ces informations-là?
Alors, on a un groupe privé qui est l'Association des policiers retraités du Québec. Ouais. Puis on discute là-dessus. Puis lorsqu'il y a une personne qui décède, c'est affiché à cet endroit-là. Mmh. Lorsqu'il y a une nouveauté quelconque.
Jugez-vous le travail des policiers actuels?
Pas sur ce site-là, mais il y en a d'autres, oui.
Il y a des groupes plus privés.
Ça, c'est quand ils se croisent au Tim Hortons, là, si on enlève du vieux poids, ils sont assis, les gars, là, là, ils parlent de tout ce qui arrive aujourd'hui. Ah, ben c'est le fun de t'avoir avec nous autres en studio, puis un gros merci pour ça. Tu nous as, toute la famille Marceau est très, très contente là, de ce que tu nous as envoyé comme information.
Ben merci.
On était très heureux, ça a fait du bien de revoir le vieux Pops. Hey, Danny Morissette, aujourd'hui, on parle de Godasse, qui fait l'actualité déjà depuis quelques jours. Il y a un dossier spécial dans les journaux de Québécois. Godasse Gagné qui semble avoir eu tellement d'informations à donner qui a mis en place le projet pour faire tomber Maurice Mombouché. Mm-hmm. Puis ce matin, on nous a parlé que Godasse a dû passer un test de détecteur de mensonges.
Oui, un polygraphe.
Ça, t'en as-tu déjà passé un pour la police, la Sûreté du Québec, toi?
Moi, j'en ai jamais passé parce que je suis pas formé pour être polygraphiste.
Mais c'était pas un passage obligé à la Sûreté du Québec, parce que la GRC, moi je savais, quand j'avais envoyé tous mes trucs d'école et tout ça pour la GRC, on m'avait informé que si j'embarquais dans le processus, il allait avoir un test de polygraphe, puis il y avait aussi une enquête, je sais pas comment ils l'appelaient. Là.
Les enquêtes de bonne mœurs, enquêtes de recrues.
C'est ça, sur ma famille, sur mes voisins et tout ça. Puis là, quand ils ont commencé à dire mes voisins, ils me disaient, ah, c'est là que je suis cuit, fait que j'ai pas...
Je passe ma tondeuse à 7h le matin, le samedi, ils triperont pas. Là.
Mais je pensais que c'était pour la Sûreté du Québec aussi.
À la Sûreté du Québec, à l'époque où c'est que j'ai appliqué, le test de polygraphiste n'était pas en place.
Obligatoire, OK.
Ouais. On avait les enquêtes de bonne mœurs où ce qu'allaient voir nos anciennes conjointes. C'était souvent moi ce qui me faisait le plus peur là, à ce moment-là. Puis aller voir nos employeurs.
Il y en avait beaucoup dans ton cas, une cinquantaine?
Il y en avait une en particulier que je me disais, si jamais je passe pas, je le sais, c'est à cause de quoi.
Ouais.
Bien, au contraire, elle était très correcte.
Ouais.
Mais non, les tests de polygraphiste, à la GRC, ça a toujours existé de ma souvenance, mais à la SQ, maintenant, je crois qu'ils en font passer, puis dans certains corps de police, mais c'est pas partout. C'est pas,
ça, Danny, mettons, là, tu sais, au lieu du projet Taser puis du projet Poivre de Cayenne, on pourrait pas faire ça. Moi, j'ai repensé à ça, le Poivre de Cayenne, dans ma face, là, puis je suis plus sûr.
Non.
Écoute, tu veux pas ça, là, le Poivre de Cayenne. On en a parlé l'autre fois, puis j'ai fait des démarches. J'en ai parlé avec Yann. Ça allait bien, les démarches, puis... sans parler du corps de police en question, c'était pratiquement autorisé, mais malheureusement, il est arrivé un événement, pas plus tard que la semaine passée, qui a fait en sorte que, pour des questions de sécurité, puis de fuite d'informations, puis surtout...
Ce sera pas permis.
C'est ça. Un exemple là, qu'on peut donner, là, que le monde va comprendre, c'est advenant le cas, puis ça, écoute, il n'y a même pas 1% de chance que ça arrive, que quelqu'un se fait taiser, un animateur, puis qu'il subit un malaise après. Bon, ben là, au niveau de la responsabilité,
exact.
qu'est-ce qui arrive.
Ça fait du sens.
C'est ça. Mais trop fort casse pas, comme on dit. Je suis allé jusqu'au fond des choses, puis je passais proche, mais malheureusement, j'ai échoué.
Ça a failli.
Danny Morissette, t'es un ex-policier de la Sûreté du Québec. T'as été au crime majeur. T'as rencontré des gens qui ont tué des gens. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont un profil? Tu sais, quand toi, là, tu jasais avec ces gens-là, quand tu devais les accompagner, est-ce qu'ils ont, ils ont un regard différent, ces tueurs-là? Est-ce que tu as l'impression que ces gens-là pourraient peut-être un jour être repentants ou tu as vraiment l'impression de rencontrer des gens qui sont sans émotion?
La majorité, tu as l'impression qu'ils sont sans émotion, mais je peux pas, j'ai pas la prétention de dire que je les ai tous rencontrés. C'est pas vrai, là. T'es Godasse Gagné, Frédéric Silva, je les ai pas rencontrés. J'ai rencontré Gérald Galland. Cependant...
Gérald Galland, c'est quand même le tueur à gages le plus prolifique qu'on ait connu là,
absolument,
jusqu'à
oui.
maintenant.
Mais c'est des gens avec qui tu peux discuter. C'est pas nécessairement des gens un peu... J'écoutais hier, tout le monde en parle avec la famille Alexandre Bissonnette,
ouais.
qui ont des problèmes de santé mentale puis qui commettent des crimes suite à ces problèmes-là. C'est vraiment une question de business, c'est une question d'argent. Puis ils le disent. Puis souvent, le point commun avec tous ces individus-là, lorsqu'on les rencontre, ils disent tout le temps la même chose, c'est « j'aurais donc bien pas dû embarquer dans cette gang-là » parce que ils réalisent que tôt ou tard, ils ont beaucoup plus d'ennemis que d'amis là-dedans, puis ils peuvent pas faire confiance à personne. Tu rencontres un délateur, aujourd'hui, tu rencontres un criminel provenant du crime organisé, ils disent toute la même affaire. Ils se font trahir par leurs propres amis. Tôt ou tard, puis ils ne peuvent pas sortir vraiment du milieu.
Le délateur, c'est l'ancien criminel qui va donner de l'information aux policiers pour essayer d'aider d'enfermer les plus pourris, c'est ça?
Ouais. Ben, en fait, on peut parler un peu de terminologie là, très rapide, parce que même des fois, les policiers, on se mêle là-dedans. Je vous ai fait un petit travail. En fait, vous m'avez fait travailler pas mal hier. Je me suis amusé à regarder les 6 plus grands délateurs. J'ai fait des comparatifs. Je me suis amusé avec ça. Mais je pense que pour bien débuter, c'est important de connaître un peu c'est quoi la différence entre un informateur, un délateur, un agent civil d'infiltration, un témoin repenti. Je veux dire, il y a tellement de noms, mais il y a des distinctions. Un délateur, là, à la base, c'est quelqu'un qui a commis des crimes. OK? C'est pas, un informateur n'a pas nécessairement commis des crimes. Mais un délateur, qu'on appelle également témoin repenti, c'est la même chose. C'est des personnes qui ont été reconnues coupables d'une infraction criminelle puis qu'à un moment donné, acceptent de donner de l'information à la police contre une rémunération monétaire.
C'était le cas de Godasse.
C'était le cas de Godasse, c'est le cas de Frédéric Silva, c'est le cas de d'autres qu'on va parler. Mais ça, les délateurs, je vous dirais que c'est la protection des témoins qu'on appelle qui s'occupent d'eux. C'est vraiment des enquêteurs spécialisés. C'est une boîte à Montréal. Et puis, eux, s'occupent d'eux autres, de leur sécurité, des logés dans un endroit secret qu'évidemment, je ne peux pas mentionner. On s'entend, ce n'est pas dans un hôtel parce qu'il y a des risques d'évasion et il y a des risques que ces personnes-là, suite à leur délation, se fassent descendre. On s'entend? Donc, en gros, un délateur, c'est très, très rare, mais c'est un peu la définition des délateurs. Où est-ce que je suis plus à l'aise? C'est au niveau des informateurs, qu'on appelle également les sources. Dans le milieu criminel, ils vont appeler ça des snitchs, des mouchards. Ça, c'est des gens qui donnent de l'information, qui font souvent partie du milieu, on va dire, de bas de gamme, soit des trafiquants de stupéfiants, des consommateurs, qui vont nous aider à résoudre certains dossiers, à faire progresser les enquêtes, particulièrement en matière de stupéfiants. Mais ça peut être également... Un exemple, une madame qui se balance, j'en avais une source, c'était carrément ça. La madame habitait dans un village X, elle tricotait sur son balcon, mais elle maudit qu'elle voyait des affaires. Puis elle aimait la police, donc à toutes les fois, elle nous appelait pour dire « j'ai vu tel véhicule », tout ça. Puis là, à un moment donné, oh, elle rajoutait les plaques, oh, elle rajoutait la description du monde. Excellente informatrice. Mais on s'entête, elle n'est pas dans un milieu criminel du tout.
Mais quand c'est le cas, mettons, de vendre de drogue, j'imagine qu'ils font ça pour une raison, là, pour se sauver le derrière, quelque chose?
Ben oui, parce qu'il y a différentes motivations à devenir informateur et délateur. Quand on parle des informateurs, souvent, les motivations, ça peut être, je l'entends souvent, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être policier, mais je n'avais pas les notes, j'avais des problèmes de santé, je n'avais pas la vue. Il y en a aussi... qu'à un moment donné, ils se mettent à croire en Jésus, qui ont des remords de conscience suite aux crimes qu'ils ont commis dans le passé et puis qui décident aujourd'hui de passer à l'action, puis à ce moment-là, nous transmettre de l'information. T'en as d'autres, et je vous dirais, c'est drôle à dire, mais c'est nos meilleurs, ceux-là. Ils vont se servir de nous autres pour éliminer la concurrence. Autrement dit, ils vendent dans tel secteur, et puis à un moment donné, ils ont de la pression d'un autre groupe qui veulent avoir leur territoire. À ce moment-là, ils vont nous transmettre de l'information pour qu'on puisse les arrêter, pour qu'on puisse faire des perquisitions pour les effacer de la map. Ça, c'est ça. Il y a de la vengeance aussi. Deux personnes qui s'entendent bien ensemble, à un moment donné, décident de se séparer pour une raison X au niveau de la business qu'on parle, et là, un décide de planter l'autre en parlant.
Mais ça, vous êtes au fait de ça, là. Qui est contre qui? Pourquoi les gens vont vous voir pour vous donner l'information? Vous le savez que souvent, il y en a un qui va venir vous voir pour éliminer la concurrence de l'autre bord.
On pose toujours la question.
Ben oui. Et est-ce qu'ils vous répondent honnêtement?
Oui, oui, oui. Mais ils n'ont pas le choix parce que quand on contrôle un informateur, le mot « contrôler » est super important. L'informateur n'a pas à nous dire « Danny, je veux te rencontrer à tel endroit. » Non, non, c'est moi qui va dire l'endroit. « Danny, je suis disponible à telle heure. » Non, non, attends un peu. C'est moi qui va te dire telle heure. Puis, il y a des raisons là-dedans, dont une qui est super importante, qui est une raison de sécurité. Un exemple, l'informateur, aucune crédibilité, aucune fiabilité. On commence à travailler avec lui, donc on l'essaie. Et puis, il nous dit « Je veux te rencontrer à tel hôtel à telle heure. » Ben écoute, non, non, on n'ira pas à cet hôtel-là. Ou si c'est nous, admettons, qui disons, on veut te rencontrer en arrière du McDonald's, à telle place. Souvent, moi, ce que je faisais, c'est qu'on faisait ce qu'on appelle une passe un peu avant. On regardait voir effectivement si le gars était là, s'il était seul. Parce qu'on s'entend, on ne veut pas se faire de l'entrapment. On ne veut pas se faire accueillir par 5-6 bandits avec des armes à feu. Puis là, à ce moment-là, à la dernière minute, je changeais l'endroit juste pour les déstabiliser.
OK.
Ça, c'est des petites techniques là, basiques d'enquête. Là.
Mais là, j'imagine que vous ne pouvez pas prendre pour acquis que cette information-là est toujours bonne. Il y en a qui doivent essayer de brouiller des pistes. Tu sais, d'un matin, il y en a sûrement qui sont malfaisants. Là. Je me dis, il y en a partout. Là. Fait qu'il y en a sûrement des clin-clins qui appellent la police pour donner des mauvaises informations. Là.
Absolument. C'est pas parce que quelqu'un appelle pour dire qu'il veut nous donner des informations sur tel sujet que nécessairement va devenir informateur. Si, je fais souvent un exemple, nous, il y a deux critères essentiels pour évaluer un informateur. On a la crédibilité de l'informateur et la fiabilité. Il y a d'autres critères qui sont moindres inclus là-dedans. Mais un exemple, quelqu'un qui arrive devant moi, il n'a pas de dents dans la bouche, il est sur la méthamphétamine, il est magané de la vie. Ce gars-là, au niveau de la crédibilité, zéro open bar quand on le regarde. Mais au niveau de la fiabilité, le gars est dans le milieu, il est implanté dans le milieu, il consomme à côté, il connaît, tu sais, il a accès à des informations qu'à moins d'avoir des agents doubles ou de la filature, tout ça, on n'est pas en mesure d'avoir. Donc, crédibilité zéro, mais fiabilité est important. En contrepartie, on a quelqu'un qui arrive, chemise, veston, cravate, vient nous voir, dit « Danny, je veux te parler de fraude qui a à tel endroit dans tel village. » Crédibilité, 10 sur 10, le gars, il a une belle job, il paraît très bien, tout ça, il parle bien. Mais au niveau de la fiabilité, finalement, c'est parce qu'il a pogné ça d'un nouvel ou c'est quelqu'un d'un autre qui a dit cette information-là, fiabilité zéro. Mm. Donc, et là, on en vient à comment coder un informateur.
Ouais.
Et là, on rentre dans des techniques.
OK, mais c'est franchement intéressant. Puis est-ce que c'est ça qui est arrivé à un moment donné, c'est de l'information des informateurs? Il y a de ça quelques mois, bon, il y avait la guerre entre les Hells Angels puis le Blood Family Mafia qui faisait rage. Je ne sais pas si ça correspond avec le meurtre de Dunne Guérin, là, mais quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, il y a des flics d'un peu partout au Québec qui sont descendus à Québec puis qui ont fait le tour des établissements où il y avait de l'alcool, puis on ciblait des individus, puis il y a eu énormément d'arrestations, Danny. C'est probablement que les Hells ont décidé de parler là, pour dire, regarde, ils se retrouvent à telle adresse, c'est là qu'il est, puis c'est sûr qu'ils ont eu de l'information...
Écoute, je te donne...
Tu regardes avec un beau sourire.
Ben, parce que j'ai participé à cette opération-là.
OK.
Donc, je te donne 10 sur 10 sur la question, mais 0 sur 10 sur le résultat, parce que malheureusement, je ne peux pas en parler.
C'est correct. Parce que moi, j'avais pas d'informations à ce niveau-là, mais je me suis dit...
C'est une réduction qui fait du sens.
La rapidité de frappe des policiers du Québec qui sont tous descendus ici puis qui ont été capables de trouver les adresses des gars puis où est-ce qu'ils étaient, c'est parce qu'il y avait de l'information directement sur le terrain.
C'est certain que Michel Guérin, Dunne Guérin, c'est un personnage très connu dans la ville de Québec qui contrôlait énormément de territoires et qui avait toujours des liens avec les Hells. Puis qu'il avait son gym, etc. puis qui roulait sur l'or dans des restaurants très, très luxueux. Donc, à partir de l'instant où ce que cet individu-là, qui était vraiment important, on va dire, au niveau de la relation, c'est une relation, en fait, lui, au niveau des achats, c'est certain qu'on a l'obligation d'agir. Et il y a une partie qu'on appelle l'aspect visibilité. C'est-à-dire, regarde, on est capable, nous autres, du jour au lendemain, de faire descendre des gars de Montréal, des gars reliés, des enquêteurs qui sont spécialisés en crime organisé.
En gang, oui.
En gang, on va faire le tour de tous les établissements.
Il n'y avait pas de tête de comptable là-dedans. Dans ceux que j'ai vus, là, il y avait de l'air comme de monsieur là, qui était un peu méchant, qui sortait des cavernes.
Oui, on était en mission, effectivement. Puis tu sais, on rentrait dans un bar, on allait voir le tenancier, on expliquait les raisons, mais on identifiait la majorité du monde qui avait dans un bar.
Payez-vous les délateurs?
Absolument. Absolument.
Pourquoi? Hein? Parce qu'on dirait que, comme simple citoyenne, je me dis, c'est vous autres presque qui leur rendez service en réduisant les peines, en les protégeant. Puis quand même, il y a des gros montants qui sont déboursés pour leurs services.
Bien, effectivement, quand on parle de Frédéric Silva, 3 millions. 3 millions. Là, vous allez me dire, ouais, mais Danny, ça n'a pas de maudit bon sens. 3 millions de dollars pour un bandit qui a tué du monde puis qui a fait des tentatives.
Puis c'est juste 3 ans qu'il est délateur.
Depuis 2022.
2022, OK.
Oui, on est allé chercher en hélicoptère, lui, au centre de réception correctionnelle à Saint-Onde-des-Plaines. Un beau dossier de... Je pense qu'il est rendu inspecteur-chef, là, Benoît Dubé. Et puis, c'est probablement le délateur le plus important suite à Godasse Gagné puis Gérald Galland. Vous allez me dire, Danny, ouais, ça n'a pas d'aller 3 millions. On pourrait s'en faire des choses avec 3 millions, réparer des rues.
Mais surtout que ces gars-là, ils ne toucheront pas nécessairement cet argent-là parce qu'ils ne reverront plus le jour. Là.
Mais, tu sais, il y a deux écoles de pensée. Oui, c'est beaucoup d'argent. Moi, je suis le premier à le dire, c'est énormément d'argent. C'est un record. Mais si vous pensez un peu policier, lui, là, on parle de Fred Silva, là. Il est en train de résoudre actuellement, on parle d'une soixantaine de dossiers de complot de meurtre, dont 10 meurtres. Il passe à la table. Et puis, si on fait un calcul, dans le crime organisé, là, je ne parle pas d'un meurtre où c'est que l'homme a un couteau plein de sang puis qu'il dit « qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai tué ma femme. » Ça coûte rien, ça, ce genre de dossier-là, parce qu'on a la preuve, on a des... Tu sais, je veux dire, c'est très, très clair. En matière de crime organisé, c'est tellement restreint, c'est tellement de l'information qu'on a de la difficulté à obtenir, à moins d'utiliser des techniques d'enquête comme la filature, l'écoute électronique, et qui demande énormément de temps homme, parce qu'un dossier de meurtre, on ne ferme jamais ça.
Donc, le 3 millions qu'on y a donné aurait peut-être coûté 15, 20, 30 voilà. millions pour élucider ces meurtres-là. Okay.
C'est 100 000 piastres par meurtre lié au crime organisé, au niveau main-d'œuvre en matière d'enquêteur, en matière de technique d'enquête. L'écoute électronique, c'est pas gratuit. Donc, si vous faites le calcul, je pense qu'on rentre malgré tout dans l'argent. Il n'y a pas juste ça, tu sais, il y a des raisons pour lesquelles on paye 3 millions de l'individu. Non seulement délateur, je ne peux pas appeler ça une technique d'enquête, mais on en a vraiment de besoin parce que ça nous permet d'atteindre des têtes dirigeantes qu'en temps normal, on ne serait pas en mesure ou on aurait beaucoup de difficultés d'obtenir. Mais ça nous permet de résoudre des dossiers. Ça nous permet également, tu sais, cet argent-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bien, il y a la protection du délateur et sa famille. Mmh. Ça va inclure... possiblement un changement d'identité. C'est lui qui le décide, mais habituellement, il l'accepte. Ça va un changement de pays, souvent. Le logement...
Fait comment ça marche, votre collaboration, à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que c'est juste vous qui commandez des grandes interviews parce que vous cherchez des informations? C'est lui qui se doit de vous fournir de l'information de façon sporadique? Comment ça marche?
Bien, il y a deux façons de procéder. Nous, c'est certain qu'on va aller voir certaines personnes très haut placées au niveau du crime organisé. Et à l'occasion, quand on sait qu'ils sont vraiment mal pris, on va lui offrir le choix de devenir délateur. Je ne cacherai pas que 99 % du temps, ils vont dire non. Le 1 % où ce qu'ils vont te rappeler, et c'est là qu'à un moment donné, ça paye, c'est lorsque le futur délateur est accolé au pied du mur et que là, il risque, il a peur pour sa vie, il a peur pour ses proches, il a peur de se faire passer. Là, à ce moment-là, c'est drôle, mais la police, ça devient... vraiment intéressante pour lui.
Puis vous êtes sûr qu'il vous bullshit pas, il n'y a pas de mauvaises informations qui se passent. Parce que moi, je me mets à la place d'un criminel, là. Tu me donnes 3 millions, là, puis tu me dis fournis-moi de l'information. Je peux te fournir n'importe quoi, là.
Bien, 3 millions, justement, ça va jusqu'au procès et après le procès. Le 3 millions n'est pas donné la première journée.
C'est payé par tranche.
Et c'est payé par tranche.
Par information.
Ça peut être la cantine aussi qui vont payer, la roulotte dans les services correctionnels.
Mais souvent, ça sert. Ce que j'ai lu, c'est que ça servait beaucoup à relocaliser la famille de l'individu qui est rendu délateur. Parce qu'il faut que tu la protèges, cette famille-là.
Absolument.
L'argent, est-ce qu'elle vient nécessairement du public ou ça provient de descentes que les policiers ont fait où on est tombé sur des sommes d'argent astronomiques? Est-ce qu'on met ça dans un compte puis on prend cet argent-là pour payer les délateurs?
Non. Nous autres, la façon que ça fonctionne, je parlais tantôt de la protection des témoins repentis, qui est une escouade avec des enquêteurs spécialisés qui s'occupent, puis en même temps, je n'ai pas oublié ta question, Audrey, qui s'occupent de ces délateurs-là. Un, pour s'assurer de la vérité, de vraiment s'assurer qu'ils nous donnent la bonne information, on passe du temps avec eux autres. Puis l'information qu'ils nous transmettent, on la valide. On a déjà des enquêtes. Les dossiers sont déjà ouverts là-dessus. Donc, on va le savoir s'ils nous bullshit. On parlait de polygraphie tantôt. Ils vont passer des tests de polygraphie également. Même si le test polygraphique n'est pas admissible en cours pour preuve. Vous me suivez? Et pour revenir à ta question, c'est qui était...
Les descentes de police quand...
Ah oui. L'argent.
Parce que la Ville de Québec, je sais que s'ils font une perquisition, il y a un certain montant qui va au service de police de la Ville de Québec pour lutter contre le crime. Mm-hmm. Puis il y a d'autres montants qui vont, exemple, aux victimes ou les associations de victimes.
Exact.
Ou pour ce qui est de l'aide psychologique et tout ça, de ce que je comprends.
Oui. Au niveau de l'argent, où ce qu'on la récupère, ce fameux 3 millions-là, c'est qui le paye en bout de ligne, dans le fond, là? C'est qu'à un moment donné... Une fois qu'on a un bon délateur, il y a des ententes, il y a des comités avec le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique. Ils se rendent compte à ce moment-là, ils disent, regarde, on a un bon délateur, ils vont nous donner tant de crimes éventuellement. Et là, ils vont déterminer ensemble le montant octroyé à ce délateur-là. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va prendre l'argent qu'on a récupéré de perquisitions de produits de la criminalité, de biens infractionnels, pour les payer? Je ne suis pas en mesure de m'avancer à ce niveau-là. Mais chose certaine, c'est que cet argent-là, en bout de ligne, moi, vous, c'est les contribuables qui vont payer pour ça.
Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que Godas Gagné a mentionné pourquoi Mom voulait déstabiliser le système judiciaire? Pourquoi il voulait faire peur aux policiers? Pourquoi il a descendu Diane Lavigne? Il a fait descendre Diane Lavigne?
Oui, puis Pierre Rondeau, le projet Larron qu'on appelle... Je ne sais pas si... il faudrait demander à Robert Pichon, mon ancien boss, justement, au crime majeur.
Qui est un ancien chef de police à Québec, là.
Exactement, qui est tout qu'un monsieur, là. Mais, en fait, je ne sais pas si Godas en a parlé, mais on le sait pourquoi Mme Boucher a décidé du jour au lendemain de s'attaquer aux gardiens de prison. Éventuellement, il voulait s'attaquer à la couronne, à Mme l'honorable Franche Charbonneau, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises. Et il voulait également s'attaquer à des policiers, à des juges. Et c'est pas nécessairement, oui, il y avait l'aspect déstabiliser le système judiciaire, démontrer que les moteurs criminalisés sont plus forts que tout le système en question. Mais il voulait également passer un message à sa gang et lui dire, regarde, moi, Mom Boucher, les nomades de Montréal, etc., et ma gang, si on est capable de s'attaquer à des policiers, à des agents correctionnels, à des juges, c'est qu'on est capable de s'attaquer également à ceux qui vont nous dénoncer. Donc, il voulait instaurer un climat de peur à l'interne pour lui dire jusqu'à quel point il est prêt à aller loin à ce niveau-là.
Quand même assez particulier parce que c'est ce qui a causé sa perte, là. Parce que là, Mom Boucher, bon, on savait que c'était le chef des nomades. Il était perçu comme étant le chef des Hells Angels au Québec alors qu'il ne l'aurait jamais été, de ce qu'on comprend, là.
Bien, de la manière ça fonctionne, là, au niveau des Hells, c'est qu'ils sont indépendants. Il y a 5 chapitres.
Ouais.
Et puis, c'est sûr qu'ils travaillent ensemble, là, mais chaque chapitre fait ses propres affaires, a son propre territoire. Lui, il était nomade. Ça le dit, nomade, il se promenait. Il était situé à Montréal. C'était un ancien rocker, etc., qui a gravi les échelons. Mais lui, il s'est autoproclamé chef des Hells, puis les médias.
Ça a été une erreur parce que les gens se sont intéressés à lui, puis encore plus quand tu t'attaques au système, là, c'est le système qui va s'intéresser à toi pour t'anéantir. On a à Québec, on a Gamache qui est là, qui emmène large. À Montréal, ouais, on a Martin Robert qui emmène large aussi, mais jamais ces gens-là vont s'autoproclamer chef des Hells Angels au Québec. Là.
Non, mais c'est également un peu, comme tu dis, ce qui a causé sa perte. Ouais. Mom Boucher, lui, il aimait les caméras. Rappelez-vous, là...
Sa sortie du palais de justice.
Sa sortie du palais de justice, puis moi, j'oublierai jamais le combat Dave Hilton, Stéphane Ouellet, ceux qui se rappellent. Il était acclamé comme un héros quand il est sorti de prison après son premier procès. Je veux dire, lui, il carburait à ça. C'est un sociopathe. Et, aujourd'hui, tu parles avec les moteurs, bien, de toute façon, il a été renié. Et puis, il est décédé à l'intérieur des murs d'un cancer. Il n'a jamais voulu se faire soigner, ce gars-là. Puis à ses funérailles, il n'y a pas de patchés qui sont allés, là. Donc, ça vous donne une idée à quel point, à un moment donné, peu importe où ce que tu es dans l'organisation, peu importe le succès que tu as, ça finit rarement bien dans ce milieu-là.
Qu'est-ce que ça prend pour être un agent civil? C'est une question qui a été posée sur mon Messenger. Quelqu'un qui écoute Danny Morissette, qui est un ex-policier à la Sûreté du Québec au crime majeur, quelqu'un qui dit « Moi, je veux de l'information, j'aimerais ça être agent civil. » C'est quoi le processus d'embauche pour être agent civil?
Tu vois, c'est un peu... c'est bien, la question est intéressante parce que les OCI, qu'on appelle les agents civils d'infiltration, il y a d'autres terminologies également là-dedans. Ça, c'est un autre groupe d'individus qui va au-delà des délateurs et des informateurs. C'est des agents sources, ou on appelle également ça un agent de l'État. C'est probablement pour devenir OCI. Un OCI, là, c'est une méthode d'enquête très, très forte qui va être utilisée en particulier par l'ENERCO, l'Escouade nationale de répression sur le crime organisé. C'est pas des policiers, mais c'est des criminels ou des personnes qui sont vraiment impliquées dans le milieu qui, du jour au lendemain, vont signer une entente avec l'État. J'essaie vraiment de le vulgariser au maximum pour devenir un agent double. Et travailler.
Okay, fait que c'est pas moi demain matin qui a le goût de faire ça puis qui demande à être agente civile.
Je t'avais pas stoulé, là, mais c'est elle effectivement qui m'a demandé sur son messenger te poser la question.
Ben écoute, Audrey, je vais te répondre à ce moment-là. Je penserais pas. À moins qu'on ait un dossier, je sais pas, comme hôtesse de l'air, vu que tu es grande et puis avec. À ce moment-là, peut-être tu pourrais être intéressante.
Mais c'est des criminels.
Mais oui, c'est ça. C'est des criminels. Ils proviennent du milieu criminel. Puis ils ont un contrat avec la police pour une période, puis ils ont une rémunération également établie. C'est quand même très, très dangereux, on s'entend. Un agent civil d'information, souvent, ils vont recueillir de la preuve pour la police. Donc, ils vont être, on appelle ça des body packs. Ils vont avoir des micros sur eux, souvent. Et puis là, ben regarde, c'est le thrill. Peut-être que lui, ça l'intéresse à cause du thrill.
Mais ça, Danny, là, les histoires de body pack et tout ça, on n'est pas rendu à d'autres choses comme technologie. Parce que, tu sais, quand on regarde, moi, j'ai appris comment c'était la mafia quand je regardais des films sur la mafia. J'ai appris ce que c'était que les motards quand je regardais des films avec les motards. Tu sais, ils sont tout le temps en train de se faire fouiller. Tu sais, les body packs, là, est-ce que techniquement, il y a une couple qui doit se faire découvrir? Là?
Écoute, c'est parce que les gens ils regardent des films puis ils s'imaginent qu'un body pack, écoute, c'est gros comme une veste par balle. Là. Moi, je vous dirais, là, un body pack, ça peut être un micro gros comme une pointe d'ongle. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on en est rendu là.
OK.
Mais c'est certain que les... Oui, on se promet. Mais oui, j'ai connu effectivement des affaires que je me disais...
C'est 44 avec qui tu avais parlé, Yann, ouais. Qui avait dit que lui avait failli se faire pointer, tu comprends, direct sur le micro, puis ils auraient pu finir là.
Exact, c'était avec le gars de Trois-Rivières.
Raymond
Desfossés, qui emmenait extrêmement large là, au niveau de l'importation de cocaïne. Puis lui avait réussi à rencontrer Raymond Desfossés. Puis à un moment donné, il y avait un body pack. C'était entendu avec les policiers qui allaient rencontrer Raymond Desfossés. Puis Raymond, il tapait sa poitrine en disant « Moi, les flics peuvent rien contre moi. » Puis il tapait sa poitrine, mais à un pouce du micro.
Faut que tu gardes ton sang-froid, c'est un méchant temps.
Je ne sais pas s'il y avait une couche, là, mais ouh, moi, c'est sûr que j'aurais fait là.
Ben, tu vois, ça, c'est un critère qu'on va évaluer pour un OCI pour répondre à la question de l'auditeur. Là. Effectivement, ça prend quelqu'un qui a un sang-froid, ça prend quelqu'un qui est loyal, hein, qui ouais, ne trahira pas, surtout.
Ça peut pas être un grand émotif. Là.
Est-ce que ces gens-là pensent au après? Parce qu'une fois que tu vas témoigner, là, Raymond Desfossés avait vu qu'il était C40. C'est C41 ou C44?
C'était 44.
C'était 44. Tu sais, Raymond Desfossés, il savait là, que c'était un de ses chums qui était en train de témoigner, un de ses chums entre guillemets, okay, ouais, qui était devenu agent source. Là. Mm-hmm. Fait que ça, après, comment tu peux avoir une vie convenable? Là? Lui, il est obligé de partir dans un autre pays, là, c'est 44.
C'est souvent le cas, oui, effectivement. Sauf que lorsque, peu importe que ce soit un ACI ou un agent double de la Sûreté du Québec, souvent, effectivement, on va fonctionner avec des codes et puis ils vont témoigner sous paravent. Et parfois, on va changer également les voix pour maximiser leur protection. Mais oui, ça fait partie, comme on dit, du risque, des risques du métier, autant pour un agent civil d'infiltration qu'un agent, ouais, double.
Tu sais, pour avoir rencontré Alex Kane, là, ouais, il avait plus de qualité de vie là, quand je l'ai rencontré. Je sais même pas s'il était encore en vie, Alex Kane. Là. Mais j'ai rencontré
c'est
v'là 10 ans.
Le replacer?
Écoute, c'est un gars qui était un agent d'infiltration pour contre la mafia, de toutes les mafias possibles. Il était en Amérique du Sud. Il est encore en vie. Il a fait de l'infiltration pour contrer les Mongols aux États-Unis qui sont extrêmement agressifs. Là, il a eu ses patchs. Lui, ce qu'il détestait, là, c'est quand il dormait. Parce que c'était la seule chose qu'il contrôlait pas. Quand il dormait, il parlait. Fait qu'il avait peur que quelqu'un soit à côté de lui pendant qu'il était en train de dire la vérité sur sa vie, comme quoi que c'est un agent double.
Ouais. Ouais.
Mais quand, il a écrit un excellent livre.
Il a plus de qualité de vie. Là. Moi, je l'ai vu. Là. Écoute, il est quoi, 5 pieds, il sent la cigarette, il n'y a plus de dents dans la bouche. Mais c'est un gars qui avait un sang-froid incroyable.
Non, effectivement, ça prend un 100 fois. Puis, tu sais, la personne que vous avez rencontrée, l'agent double,
oui,
de la Sûreté du Québec, vous l'avez vu.
Oui.
Ça, c'était hot. Si vous avez manqué ça, là, c'est encore sur notre chaîne YouTube, BLVD Boulevard 102.1. Là. Vous allez dans la playlist de l'Open Mic, là, puis vous allez le retrouver. C'était particulier de le voir arriver, puis on avait ri parce que quand il était rentré, il était arrivé déguisé, là. Puis on se disait, mon doux Seigneur, à qui c'est qu'on va jaser, tu sais?
Ouais, je suis tellement pas surpris de lui.
Alex Kane, il en a fait beaucoup de. Il en a écrit beaucoup de livres, là. Moi, j'ai vu Infiltrateur 1 puis Infiltrateur 2, là. Je les ai lus, j'avais adoré, puis je l'avais rencontré dans ces circonstances-là. Mais c'est ça, ça prend des gens particuliers pour faire ce travail-là qui est très particulier.
Ben moi, je vous dirais, là, si vous avez. Tu sais, je veux pas faire de la publicité quand même, mais si vous avez un livre à lire et que vous êtes intéressé par les informateurs, je vous dirais, allez chercher L'Infiltrateur de Louis Tremblay-Destriangle. C'est l'histoire de Louis Sans-Façon, c'est un agent double de la Sûreté du Québec. C'est vraiment intéressant. Il y a le deuxième, je ne me souviens plus son nom, je pense que c'est Boomerang, parce que ça a mal terminé son histoire.
Oui.
Mais Louis, c'était quand même quelqu'un d'influent. Et je vous dirais même, à la limite, serait possiblement intéressé à venir ici.
On est preneur. Danny Morissette, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec au crime majeur. C'est toujours un plaisir de t'avoir, mon ami. C'est le fun de te revoir. Ça faisait une couple de semaines que tu n'étais pas venu en studio, puis les auditeurs t'apprécient beaucoup. Fait qu'il était bien inquiète. Mais non, Danny, t'es encore avec nous autres.
Ah, vous êtes donc fin. Merci.
11h15, on fait une courte pause, on vient. Gravel dans le retour.